Alors, bonjour à tous. Toujours un privilège d'être parmi vous, vous êtes ma famille, pouvoir apporter la parole ce dimanche matin. Et je continue simplement la petite série qu'a commencé Philippe sur la parabole, sur les paraboles, et j'en avais une sur la parabole du semeur et de Marc, ça tombait à pic. Et dans le livre de Marc, juste avant cet épisode, en fait, on voit Jésus qui est en opposition avec les chefs religieux et les membres de sa famille. Et Jésus pose cette question à ceux qui l'écoutent. Qui est ma mère et qui sont mes frères? On le voit en fait dans Marc 3, verset 33. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il répond en précisant que seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont les membres de la famille et donc ont pour père Dieu. Mais qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Comment distinguer ceux qui sont avec Dieu de ceux qui sont contre Dieu? Pourquoi deux groupes se forment lorsqu'on écoute l'enseignement du Messie? Et Jésus, en fait, va illustrer cela à l'aide d'une parabole. Alors, c'est quoi une parabole? Dans son livre « Que signifient les paraboles de Jésus ?», R.C. Sproul définit la parabole comme étant une histoire, une illustration, une image donnée pour pousser l'auditoire à réfléchir sur les vérités du monde spirituel. Elle amène quelque chose de mystérieux, elle vient faire le tri au sein de ceux qui écoutent. Elle invite ceux qui écoutent à être attentifs. Elle surprend et elle dévoile les pensées du cœur de chacun. Et dans notre texte, Jésus utilise l'histoire de la parabole du semeur pour répondre à cette fameuse question. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et on voit tout d'abord que le membre de la famille de Dieu, c'est celui qui est à l'écoute. Et ça va être notre premier point. Es-tu aujourd'hui à l'écoute? Et ça va être peut-être un challenge pour toi parce que tu dois être bien fatigué, peut-être envie de dormir. En plus, il n'y a pas de PowerPoint. Mais seras-tu, es-tu à l'écoute? Es-tu à l'écoute? Alors, Marc pose le cadre dans lequel Jésus va raconter sa parabole, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. Il est encore une fois en train d'enseigner au bord du lac avec une foule immense qui est prête à l'écouter, comme on le voit dans le chapitre précédent. Mais cette fois-ci, Jésus ne va pas opérer de miracle. Il va interpeller directement son auditoire à l'aide d'une histoire qui va toucher leur quotidien. Il va les enseigner, versets 1 et 2. Il les enseigne, et le terme est répété à trois reprises en seulement deux versets pour montrer en fait l'importance du ministère d'enseignement de Jésus-Christ. La priorité de Jésus, c'est annoncer, proclamer la bonne nouvelle, ce qui implique d'enseigner, de témoigner des réalités spirituelles à ce large auditoire. Et ce point mérite qu'on s'arrête un instant. Comment est-ce que tu vois Jésus? Comment vois-tu Jésus dans ton quotidien? Est-ce que tu le vois comme un faiseur de miracles ou comme un enseignant? La manière dont tu perçois Jésus va déterminer ton terrain. On a souvent tendance à faire appel au Jésus qui fait des miracles. « Seigneur, viens combler ma vie. Je me sens mal, Seigneur, fais-moi du bien. » On a souvent tendance à faire appel à ce Jésus-là que d'être à l'écoute de Jésus qui parle. « Seigneur, que veux-tu pour moi ?» serait une meilleure question. La manière dont tu perçois Jésus va déterminer la nature de ton terrain. C'est pour cela que Jésus enseigne, pour révéler les profondeurs du cœur humain. Donc Jésus raconte cette histoire. L'histoire du semeur, qui va semer des graines dans son champ. Et la première graine tombe sur le bord de la route. Les oiseaux viennent directement la picorer, verset 4. La seconde graine tombe sur un bon sol, mais les pierres empêche la graine de prendre racine. On voit ça versets 5 à 6. Cette graine, cette plante qui pousse sèche quand le soleil vient. Enfin, la troisième graine tombe parmi les mauvaises herbes qui l'étouffent. Et on voit au verset 7 qu'elle ne produit rien. Et enfin, les trois autres graines sont semées dans la bonne terre et cela produit du fruit. Verset 8, une dernière graine qui tombe dans la bonne terre et qui produit du fruit. Et donc jusqu'ici, tout va bien. Jésus raconte son histoire, on comprend l'image. Vous savez, à l'époque, c'était vraiment une société qui était agricole. Donc, semer des graines, tout le monde le faisait. Pas comme aujourd'hui où tout le monde n'a pas forcément le privilège d'avoir un jardin et de semer les graines lorsque le printemps vient. Mais tout le monde visualise bien l'image, on comprend l'image. Voilà, quelqu'un qui vient, qui sème. Et puis c'est tout. Verset 9, Jésus s'arrête là. Il termine avec cette parabole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pas d'explication, pas d'interprétation, pas de leçon spirituelle. Et imagine-toi à la place de quelqu'un à cette époque, à l'auditoire, qui entend cette histoire, et qui dit « Où est-ce que tu veux en venir, Jésus ?» Rien d'autre. Et donc, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à toi. Et c'est à ce moment-là que la parabole va atteindre son but. C'est à ce moment-là, lorsque Jésus s'arrête, sans explication, que la parabole va atteindre son but. Je m'explique. La manière dont Marc raconte son histoire, la parabole du semeur, en fait, ça forme ce qu'on appelle une sorte de sandwich. Des versets 1 à 9, on a la première partie de l'histoire. Et des versets 13 à 20, on a la deuxième partie de l'histoire. Et tu sais, le plus important dans un sandwich, ce n'est pas forcément le pain qui entoure le sandwich. C'est l'intérieur, c'est la bonne viande, le bon steak qu'on croque, que c'est juteux. C'est ça le plus important dans un sandwich. Et donc le plus important dans ce sandwich, c'est les versets 10 à 12 qui forment la leçon spirituelle. Mais l'explication est donnée seulement aux disciples. Et d'ailleurs, Jésus précise au verset 13 que je vais relire, vous ne comprenez donc pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres ? Il précise en fait que cette parabole est la clé pour comprendre les autres paraboles. Si les disciples ne comprennent pas cette parabole, comment comprendront-ils les autres ? On a envie de dire, mais donne-nous l'explication pour qu'on puisse comprendre. Et c'est ce que Jésus fait, mais en privé seulement. Pas à la foule, seulement aux disciples, à cause du steak, du cœur du sandwich, les versets 10 à 12. Ces versets sont vraiment le cœur de notre parabole. Et ils répondent à la question suivante, pourquoi l'évangile ne produit pas son effet chez tout le monde ? Pourquoi l'évangile ne produit pas son effet chez tout le monde ? Et ces versets, en fait, sont l'explication, la clé d'explication, d'interprétation des quatre terrains. Et généralement, lorsqu'on regarde ces deux versets que je vais relire, on est perplexe, n'est-ce pas ? On relit ensemble les versets 10 à 12. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. Qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Et je me souviens d'une amie qui disait, mais pourquoi Jésus ne veut pas que les autres comprennent cette parabole ou entendent l'explication ? Et on peut vraiment être choqué en fait. Attends, là Jésus est en train de dire qu'il cache l'explication à certains ? Oui, un mystère. C'est un mystère. Et le mot mystère, au verset 11, ne fait pas référence à quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux. réservé à des initiés, comme s'il fallait passer certaines étapes pour obtenir le mystère du royaume de Dieu. En fait, ça veut tout simplement dire secret. Et un secret n'est plus un secret lorsqu'il est donné, n'est-ce pas ? Et Jésus choisit de donner ce secret à certains, mais pas à d'autres. Il le donne à certains, mais pas à d'autres. En gros, voici ce que Jésus dit. J'ai choisi à ceux à qui je fais connaître le secret du royaume de Dieu. Pour les autres, tout sera en énigme, c'est-à-dire en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Pourquoi Jésus agit de cette manière ? Parce que la mission de Jésus, c'est aussi endurcir ceux qui ne se repentent pas à l'écoute de son message. La mission de Jésus, c'est aussi endurcir ceux qui ne se repentent pas à l'écoute de son message. Et c'est pourquoi il cite Ésaïe 6, des versets 9 à 10, qui nous dit ceci. Ésaïe 6, versets 8 à 10. « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer ? Qui va marcher pour nous ? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » Quelle terrible mission! La prédication d'Isaïe a endurci le cœur des Juifs, empêtrés dans leurs péchés. On voit ça au début du chapitre d'Ésaïe. Au lieu de se repentir par les reproches que Dieu leur donnait par rapport à leur vie de tous les jours, cette prédication a accentué leur faute, leur volonté de désobéir, et les a amenés dans l'exil, le jugement que Dieu a réservé pour ceux qui désobéissent. Un peu comme un enfant. Parce qu'on lui parle plusieurs reprises. Vous savez, j'ai 3 filles. J'en ai une qui passe par la phase terrible tout. Et j'ai beau lui dire, ne va pas par là, et elle avance toujours. Ne va pas par là, ne va pas par là, ne va pas par là. C'est la même manière. On avertit. Jésus a averti. Ésaïe a averti. Jésus a averti. Et on n'écoute pas. En citant ce verset, Jésus place son ministère dans la même perspective qu'Ésaïe. Jésus est le nouvel Ésaïe qui, par son message, amène l'endurcissement envers ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas comprendre, qui ne se convertissent pas et qui meurent dans leur péché. Et le jugement, ce n'est pas l'exil. Le jugement, c'est l'éternité en enfer contre Dieu parce qu'on n'écoute pas. Donc on voit en fait ici deux vérités bibliques qui sont en jeu dans ces versets. À la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Jésus choisit à qui il veut donner le secret du royaume de Dieu. C'est un choix libre, souverain, gracieux. Mais en même temps, les êtres humains sont responsables de leur écoute, de l'attention qu'ils portent au message de Jésus-Christ. Et donc on en vient au point essentiel pour toi et pour moi. Es-tu à l'écoute de la parole de l'Évangile ? Es-tu à l'écoute de la parole de l'Évangile ? Suis-je à l'écoute aujourd'hui de Jésus-Christ, l'enseignant ? Donc on en vient aux options de celui qui, dans la foule, écoute cette parabole de Jésus-Christ, cette parabole du semeur, et sa qualité d'écoute va déterminer quel type de terrain il va être. Et les mauvais terrains sont ceux qui écoutent mal. Donc on se pose la question aujourd'hui. Quel type de terrain es-tu face à la parole ? Quel type de terrain es-tu face à la parole ? C'est notre deuxième point. Es-tu un mauvais terrain ? es-tu un mauvais terrain ? Premier type de mauvais terrain, le terrain qui se moque de la parole. Et c'est ce que Jésus explique. À partir du verset 15, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La semence qui tombe le long du chemin et qui est picorée par les oiseaux représente ceux qui ne prêtent absolument pas attention aux paroles de Jésus-Christ. En fait, dans la Palestine du 1er siècle, les agriculteurs avaient pour l'habitude de semer, puis de labourer, donc de recouvrir après de terre. Et c'était une chose en fait habituelle que les graines tombent sur une partie du chemin. Le but, c'était vraiment en fait que l'ensemble du terrain soit semé. L'évangile s'adresse à tous. La prédication de l'évangile est pour tous, mais tous ne sont pas réceptifs. Ce terrain, c'est le pire des terrains. C'est le plus dur. C'est celui qui a été tassé par les va-et-vient des passants qui font un terrain, un chemin dur, où la graine ne peut pas rentrer. C'est le terrain le moins propice à la croissance de la graine. En fait, ce terrain représente ceux qui entendent, mais dont la qualité d'écoute est inexistante. Ils ne cherchent pas à en savoir plus. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne posent pas de questions. Ils ne se sentent pas concernés. En plus, le diable vient enlever directement ceux qu'ils ont entendus. Le refus de croire à la parole de Dieu n'est pas étranger à l'activité du diable, l'ennemi de Dieu, qui vient enlever même ce qui a été donné. Et ça me rappelle un événement, lors d'un dialogue interreligieux où il y avait plusieurs intervenants de différentes religions. Un ami intervenait et il a vraiment bien expliqué l'évangile. La foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et en même temps le jugement pour ceux qui ne se repentent pas. Et à la fin, on a une intervenante qui a parlé pour sa religion, la paix dans le monde, etc., qui est venue voir mon ami et qui lui a dit « C'est vraiment très beau ce que vous avez dit. » Et on s'est demandé « Est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit ? Est-ce que tu as bien saisi le cœur, le message de l'évangile ?» Cette personne, malheureusement, est responsable de ne pas avoir été attentive au message prêché. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui, très probablement, le diable a enlevé, en fait, ce qu'elle a entendu de sorte qu'elle ne se souvienne même plus qu'elle a entendu le message de l'évangile. Marc 4, verset 25. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qui l'a. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. À toi qui écoutes aujourd'hui, je te donne cet avertissement de la part du Seigneur. Ne sois pas dur à l'écoute de la parole. Ne sois pas endormi. Ne sois pas inattentif, car ton salut est en jeu. Ça, c'est le premier mauvais terrain. Le deuxième mauvais terrain, le terrain qui entrave la parole. Donc, le premier mauvais terrain, c'est le terrain qui se moque de la parole. Et le deuxième mauvais terrain, c'est le terrain qui entrave la parole. Donc la semence, deuxième terrain, elle tombe dans une bonne terre, en apparence. La graine se développe très vite et devient une plante. Donc en apparence, c'est positif. On voit ça. De même, verset 16, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Et ce qui frappe ici avec cette terre, c'est l'immédiateté. Aussitôt. Verset 5 et verset 16. Mais c'est aussi ce qui fait défaut. Le sol pierreux manque de terre et ne permet pas en fait à cette plante d'avoir racines. Et lorsque vient l'épreuve de la chaleur, les racines ne sont pas assez profondes pour empêcher qu'elle ne sèche. Et les personnes avec ce type de terrain sont les gens d'un moment. Verset 17, c'est ce que dit Jésus. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment. aussi vite il croit, aussi vite il trébuche, aussi vite il perd la foi. Et le mot trébucher fait vraiment référence à l'apostasie. On est vraiment face à des personnes qui quittent la foi. On est face à des personnes qui abandonnent la foi face aux persécutions, face aux pressions sociales, face à la pression du monde. Et ça me rappelle un ami. J'ai évangélisé cette personne pendant plusieurs mois. Elle semblait se convertir. Elle semblait vouloir se faire baptiser. Mais lorsqu'elle a commencé à comprendre que ça impliquait potentiellement un rejet de sa famille, elle a préféré dire « Non, j'arrête. Non, j'arrête. » Parfois, ce type de réaction face à l'Évangile est favorisé par la recherche d'un bien supérieur, n'est-ce pas ? L'accueil dans un groupe. Pouvoir dire « Je suis chrétien » et avoir des papiers. Avoir un sentiment d'appartenance, un groupe social. Mais les chapitres précédents de l'Évangile de Marc montrent que l'opposition au message de Jésus-Christ est inévitable. C'est inévitable. Peut-être que tu passes aujourd'hui par des moments d'opposition, que tu as un ami qui ne veut plus prendre contact avec toi à cause de ta foi. Peut-être que tu as des membres de ta famille qui ont pris tes distances avec toi parce que tu vas à l'église régulièrement le dimanche. Peut-être tes collègues se moquent de toi parce que tu témoignes de Jésus-Christ sur les réseaux. À toi qui écoutes aujourd'hui, je te donne ce deuxième avertissement. Ne sois pas l'homme ou la femme d'un moment. Ne sois pas l'homme ou la femme d'un moment. Ne sois pas ébranlé par les épreuves du disciple, par les difficultés du disciple. Ne sois pas découragé par les pressions sociales. Ne délaisse pas ta foi à cause de la peur. Ne délaisse pas ta foi à cause de la peur. Donc, premier mauvais terrain, le terrain qui entrave la parole. Deuxième mauvais terrain, le terrain qui... Non, je me suis trompé. Premier mauvais terrain, le terrain qui se moque de la parole. Deuxième mauvais terrain, le terrain qui entrave la parole. Et troisième mauvais terrain, le terrain qui étouffe la parole. Merci. Merci Bernard. C'est mes notes. Ensuite, verset 6, la semence, la graine, tombe dans les ronces, à partir du verset 7, pardon. La semence, la graine tombe dans les ronces. Et celle-ci étouffe le développement de la graine, qui ne lui permet pas de grandir et donc de porter du fruit. Et autant les pierres représentent les pressions extérieures, autant les ronces représentent les pressions intérieures. Les ronces sont le fruit d'une attirance intérieure. C'est la terre elle-même, en fait, qui produit des ronces. La terre produit des ronces. Au verset 7, on voit qu'elle pousse. Au verset 19, on voit qu'elle pénètre dans le sol, à la place de la graine, et qu'elle étouffe cette bonne semence qui est semée. Et ces ronces, en fait, comme on le voit au verset 19, symbolisent les préoccupations, je vais y arriver, du monde, et l'attrait trompeur des richesses, et les passions qu'on peut avoir en tout genre. En fait, par ces ronces, Jésus est en train de viser ce qui constitue un danger pour la vie du disciple. C'est ce qui constitue un danger intérieur pour ta vie en tant que disciple. Et par l'expression « les préoccupations du monde », Jésus est en train de viser l'âge présent, le monde actuel, par opposition au monde à venir, c'est-à-dire le royaume de Dieu, l'âge présent où le diable est le prince de ce monde, par opposition au monde à venir, le royaume de Dieu, où Jésus-Christ est le Seigneur. Et cette recherche de jouir, de profiter du monde actuel plus que du royaume de Dieu, se manifeste par un attrait trompeur des richesses. C'est ce que dit Jésus, n'est-ce pas ? Versets 17 à 19. Ce n'est pas la possession des richesses que Jésus est en train de viser. C'est pas mal d'être riche. Mais c'est plutôt la manière dont on perçoit ces richesses. 1 Timothée 6, verset 17 nous dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. L'amour de l'argent empêche de vivre en pleine dépendance de Dieu. Ce n'est pas du tout l'attitude qu'attend Jésus-Christ d'un de ses disciples. On doit vivre en pleine dépendance de Dieu, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. » Et Jésus finit en évoquant les passions en tout genre. Les passions en tout genre du verset 19. Et ces passions en tout genre, en fait, c'est une manière générale de présenter les différentes ronces qui étouffent la croissance d'un disciple. Quelles passions en tout genre t'animent aujourd'hui ? Des passions qui te détournent de l'évangile de Jésus-Christ. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment propre à chacun, mais c'est des choses qui émanent, en fait, de ton cœur. Des choses qui remplacent Dieu et le royaume de Jésus-Christ dans ton cœur. Et ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses bonnes comme des choses mauvaises. Ça peut être ta famille, comme ça peut être des choses honteuses, comme des addictions. C'est quoi ces passions en tout genre ? J'ai connu des amis qui, par, je ne saurais même pas comment dire, mais par peut-être orgueil, je ne sais pas, par orgueil personnel, ont plus à un moment donné, des frères, des personnes que j'appelais des frères, ont davantage été préoccupés par la place de l'homme noir en Occident que par l'évangile de Jésus-Christ, et ils se sont détournés de l'Église. Ça, c'est des passions toujours, qui détournent de la parole. Les ronces sont le fruit d'un cœur préoccupé, partagé, n'ayant pas saisi la grandeur de Jésus-Christ, comme nous disait Philippe. Est-ce qu'on saisit la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ ? Et à toi qui écoutes aujourd'hui, je te donne cet avertissement. Ne sois pas tiraillé par l'envie de faire une bonne carrière, d'avoir un bon travail, une bonne famille, une bonne situation sociale au détriment de ton service envers Jésus-Christ. Ne sois pas tiraillé par ces choses au détriment de ton service envers Jésus-Christ. Donc on a vu ces mauvais terrains. Et la question pour toi et pour moi, c'est: suis-je un mauvais terrain ? Es-tu un mauvais terrain ? Bien que la parabole de Jésus-Christ fait référence à la réception de l'évangile, croire ou ne pas croire, on peut y déceler des applications pour nos vies personnelles, n'est-ce pas ? Même si j'ai accepté l'évangile par le passé, suis-je toujours en train d'accepter l'évangile aujourd'hui ? Suis-je en train d'accepter la parole de Dieu aujourd'hui ? Suis-je en train d'écouter la parole de Dieu ce matin même ? Quelle ronce pour toi aujourd'hui ? Quelle pierre ? Quelle terre le long du chemin t'empêche aujourd'hui de te développer en tant que disciple de Jésus-Christ ? En tant que disciple qui honore ? De sorte que Jésus-Christ dira à la fin: « Viens, bon et fidèle serviteur. » Qu'est-ce qui casse ta croissance aujourd'hui ? Suis-je une bonne terre ? Et si jamais tu identifies quelque chose qui empêche cette croissance, alors repens-toi. Repens-toi et sois une bonne terre. Ça va être notre troisième et dernier point. Es-tu une bonne terre ? Es-tu une bonne terre ? Les propos de Jésus sont durs, sont vraiment durs. vis-à-vis de ceux qui n'écoutent pas. Versets 10 à 12. Vis-à-vis de ceux qui n'ont pas été choisis, vis-à-vis de ceux qui n'écoutent pas. D'ailleurs, Dieu ne jugera personne sur la base de l'élection, mais sur la base de ce qu'ils ont écouté et ce qu'ils en ont fait. Chacun est responsable de sa réception de l'Évangile. Chacun est responsable. Et au verset 3, on remonte, on voit Jésus qui interpelle la foule, qui dit « Écoutez !» Au verset 9, il répète, après avoir terminé sa parabole, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !» Et au verset 13, il reprend les disciples sur leur manque de compréhension, donc d'écoute attentive. « Vous ne comprenez donc pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres ?» Pourquoi ? Pourquoi autant d'attention sur l'écoute de la part de Jésus-Christ ? Parce que la bonne terre est celle qui écoute. Verset 20, regardez. D'autres graines, d'autres personnes reçoivent enfin la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et donc portent du fruit. Ils la reçoivent, littéralement. Ils reconnaissent la vérité des paroles de Jésus-Christ et ils vivent selon cette vérité. Alors comment être ? Comment être dans une attitude d'écoute de la parole ? Comment être dans une attitude d'écoute de la parole ? Eh bien, j'écoute la parole lorsque je puise en elle toutes mes ressources pour ma vie quotidienne. Je puise dans la parole toutes mes ressources pour ma vie quotidienne. Je ne puise pas dans le sport, je ne puise pas dans le compte en banque. Je le puise dans la parole toutes mes ressources pour la vie quotidienne. Je dépends de Dieu et je le montre en me nourrissant spirituellement du Seigneur. Je dépends du Seigneur. Et donc je lis la parole parce que je puise en elle toutes mes ressources pour ma vie quotidienne. Comment être dans une attitude d'écoute de la parole ? J'écoute la parole lorsque je prends le temps de la méditer. La Bible nous invite à la méditer et non pas à la lire. Et c'est une aussi grande différence entre avaler et digérer. Je prends plaisir dans un repas lorsque je prends le temps de le mâcher, de sentir les goûts et que j'ingurgite la nourriture et que mon estomac fait le travail de la digérer. Je ne prends pas plaisir en un repas lorsque j'avale comme un goinfre. Et c'est la même différence entre lire la parole et la méditer. Et la parole nous invite à la méditer. On peut lire la parole de façon intellectuelle, ça ne me touche pas. On peut lire de façon sentimentale, une sorte de créer une atmosphère, mais ça ne provoque pas un changement durable. Mais on doit lire la parole de façon spirituelle, car c'est un livre spirituel par la prière et la dépendance à l'Esprit de Dieu. Lisons la parole de façon spirituelle. On doit être concerné par ce qu'on lit. Et donc, j'écoute la parole lorsque je cherche à comprendre ce que dit Dieu et que je m'efforce à l'appliquer immédiatement. Dernièrement, j'ai été repris. C'est dur lorsqu'on est repris, n'est-ce pas ? Ça touche à notre être intérieur, parfois à notre identité, à ce qu'on veut être, ce qu'on semble être. Ça tape notre orgueil. Mais lorsqu'on est honnête, c'est vrai. Mais la question, lorsqu'on est repris face à la parole, par un frère ou une sœur qui nous aime, par notre conjoint, par des frères et sœurs, par le pasteur, c'est quelle va être ton attitude ? Est-ce que tu vas ne rien changer dans ta vie ? Ou est-ce que tu vas t'efforcer à mettre en pratique ce que dit la parole ? Mon frère, ma sœur, c'est ça, écouter la parole. Donc le terrain qui porte du fruit, c'est la caractéristique d'une bonne terre, c'est un terrain qui porte du fruit. Et il y a beaucoup de discussions autour de ces fruits, 100, 60, 30, certains prédicateurs disent donne et tu vas recevoir 100, donne et tu vas recevoir 30, 60, etc. Non, ce n'est pas la bonne explication de ce texte. Ce que Jésus dit, ce qui est important ici, c'est que lorsqu'on met en pratique la parole, lorsqu'on écoute, ça se voit. Ça doit se voir. Ça se voit. Est-ce que ça se voit que tu es un disciple de Jésus-Christ? Si tu écoutes la parole, cela se verra dans ta vie. Et donc j'aimerais terminer avec trois applications pour nous cette semaine. Écoute la parole. Écoute la parole. Écoute la parole. Je vous invite à un temps de silence.